Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Jocelyne Moussaoupone. Clôture des épreuves de l'examen d'État 2025 au Nord-Kivu. Le bilan est jugé globalement positif malgré une forte déperdition d'élèves dans les zones touchées par les violences armées. Depuis Genève, le président de l'Assemblée nationale appelle la communauté internationale à agir face aux atrocités dans l'est de la RDC et plaide pour une diplomatie parlementaire active au service de la paix, de la justice et de la prospérité. Notre invité, c'est Christian Mapendano, coordonnateur du programme Bana Okapi. Il va revenir sur la rencontre de Kindu entre leaders communautaires et radio autour de la vaccination de routine et de la lutte contre la poliomyélite. Bonsoir à tous. Fin ce jeudi des épreuves de l'examen d'État sur toute étendue du pays. Au Nord-Kivu, cette 58e session s'achève avec un bon bilan selon les autorités des provinces éducationnelles. Nord-Kivu 1 et 3 pour ses sources. Un peu plus de 30 000 candidats étaient inscrits pour ces examens dans ces entités éducationnelles comprenant les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale, Nirangongo ainsi que la ville de Goma dans certaines zones affectées par les affrontements impliquant les groupes Wazalendo et AFC M23, une déperdition d'élèves est constatée. Les détails avec vous, Stanislas Dumi.
Nord-Kivu 1 affiche un total de plus de 23 000 inscrits, alors que Nord-Kivu 3, qui couvre le territoire de Walikale et une partie de Masisi, affiche, quant à elle, un effectif d'environ 10 000 inscrits. Si la déperdition a été très importante dans la ville de Goma et le territoire des Nirangongo, cela a été constaté dans plusieurs autres sous-divisions. Dans la sous-division Rutshuru 2, par exemple, au moins 84 élèves n'ont pas répondu présent sur le 914 finalistes inscrits pour cette année. Après près de 3 années d'insécurité dans le groupement de Bukombo, Bambo et Tongo, chefferie de Buito, plusieurs écoles ne sont plus opérationnelles. Et ce qui justifie, selon cette source, ces sous-effectifs constatés, notamment dans le centre de passation d'examen de Singa qui a été le plus affecté. Dans la partie nord-est de Walikale, les centres du groupement d'Ikobo ont aussi subi cette déperdition. Sur les 768 inscrits dans les 3 centres opérationnels des agglomérations de Roussamambou et Bouleoussa, au moins 134 élèves ont été absents. Le mouvement de population et la dégradation de la situation sécuritaire de derniers jours sont la cause de cette situation, indiquent les acteurs locaux.
Toujours au sujet de l'examen d'État, notez également l'inauguration mardi à Lubumbashi de l'antenne provinciale du Centre national de correction de cet examen. Il concerne les provinces éducationnelles Okatanga 1 et 2. Pour la conseillère de la ministre de l'Éducation nationale, une nouvelle citoyenneté qui a coupé le ruban, la réussite de ces centres pilotes permettra de l'étendre dans d'autres provinces. Dora Mwanda explique son fonctionnement et son importance au micro de Jean Gandou.
Nous avons une salle de dépouillement et puis il y a le lieu de scannage. Ensuite, les informations vont être transférées dans la salle des serveurs et à la salle de contrôle. Toutes les étapes sont respectées. Les machines vont utiliser un programme relié à l'intelligence artificielle, ce qui va permettre de diminuer les erreurs humaines. Il y a toute une équipe qui a été formée pour pouvoir maîtriser ces différentes technologies. Donc, il y a un double contrôle. Il y a le contrôle de la technologie, il y a le contrôle humain justement quand l'intelligence artificielle repère une erreur, la correction se fait manuellement, que ça va permettre de décentraliser le travail et du coup d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure répartition des tâches. Nous ne sommes qu'une seule équipe, il y a le niveau national et provincial, mais nous avons besoin de travailler ensemble de manière synchronisée, de manière uniforme et ce centre en est la preuve. Donc encore un gros bravo à la province du Katanga pour accueillir ce centre de correction. Le centre est bien protégé, il y a une présence policière, toute la chaîne est respectée dans les moindres détails et de manière précise.
Notons qu'une fois ce travail terminé, les fichiers de ces différentes données seront envoyés à Kinshasa. Dans un autre chapitre, le président de l'Assemblée nationale dénonce les atrocités commises dans l'est de la RDC et exhorte la communauté internationale à l'action. Vital Kamerhe souligne l'engagement de la RDC pour la paix malgré les défis et invite à soutenir la diplomatie parlementaire pour un avenir de stabilité. Dans son discours à la 6e conférence mondiale des présidents des parlements à Genève, il a salué le thème retenu pour cette conférence: coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Vital Kamerhe invite l'Union interparlementaire à s'impliquer pour faire cesser la guerre et les violences de droits humains dans l'est de la RDC. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifindangoy.
La situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Cet acte d'une violence inqualifiable illustre une fois de plus les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies, dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts. Un véritable génocide oublié.
Pour sa part, le président du Sénat de la RDC a aussi sollicité hier mercredi l'implication de la communauté internationale dans la restauration de la paix en RDC. Alors que la diplomatie parlementaire s'active sur la scène internationale pour la paix, l'Est de la RDC continue de faire face à une réalité tragique. C'est le cas en Ituri, où la société civile condamne d'ailleurs fermement la dernière attaque armée survenue à Bunia. 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées dans une fusillade au quartier Yambiyaya. Dans sa communication faite ce matin, cette structure s'est dit très inquiète de constater que ces bandits ont opéré sans être inquiétée, ce qui crée la terreur au sein de la population. Elle exige des enquêtes sérieuses pour traduire les auteurs en justice. Martial Kizabiamongo nous en parle.
La scène s'est déroulée la nuit de mercredi à jeudi au quartier Yambiyaya, à plein cœur de la ville de Bunia. Des hommes armés non identifiés ont ouvert les feux sur des civils, tuant 3 personnes, dont une femme, et blessant grièvement 14 autres selon des sources locales. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri s'insurge contre cette attaque qu'elle qualifie de barbarie insupportable. Selon cette structure, les cas d'assassinat se multiplient dans la ville de Bunia, souvent sans réponse appropriée des autorités. Cela sème la peur dans la population. Elle interpelle les responsables des services de sécurité dans la protection des civils et réclame aussi une prise en charge pour les victimes. Son coordinateur, Dieudonné Loussa.
Ceux-là qui ont tué les gens la nuit, qui ont blessé plus d'une dizaine de personnes, soient identifiés et transmis devant la justice. Parce que ce n'est pas possible que l'on tue les gens à 19h et on ne sait pas qui ont tué les gens.
De son côté, la police affirmait avoir ouvert une enquête pour retrouver les criminels. Le commandant de la police à ville de Bunia, le colonel Abili Mwangu, demande à la population d'être vigilante et de signaler tout mouvement suspect au service de sécurité. Bunia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
À Beni, dans la province du Nord Kivu, l'organisation Search for Common Ground a procédé hier mercredi au lancement officiel du projet intitulé De la base au monde. Ce programme, lancé par le vice-gouverneur de la province, vise à responsabiliser les communautés locales dans la consolidation de la paix dans les territoires de Beni, Butembo et Lubero. Les détails avec Marc Marofimbo.
Dans sa mise en œuvre, le projet prévoit d'offrir aux acteurs de la société civile, aux cadres de base ainsi qu'aux autorités coutumières, les moyens et mécanismes nécessaires pour influencer de manière significative et durable les pratiques de consolidation de la paix au Nord Kivu. L'objectif est de promouvoir la cohabitation pacifique et de favoriser les retours de la paix. Le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, a salué l'arrivée de cette initiative qu'il considère comme une réponse adaptée aux défis auxquels la région est confrontée.
Cet atelier dont nous lançons les activités festivités ces jours arrivent au bon moment au regard de la situation de notre province dans le sens qu'ils constituent une réponse à un besoin fondamental, celui de construire la paix à partir de la base, en écoutant les populations et en les impliquant activement dans le processus décisionnel. Au Nord-Kivu, nous savons à quel point les conflits détruisent les tissus sociaux. Ce projet vient donc y répondre de manière concrète et inspirée de politiques inclusives et efficaces.
Ce projet d'une durée de 8 ans est financé par le gouvernement des Pays-Bas à la hauteur de 27 millions de dollars américains. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la société civile Force Vive Antenne de Salamabila alerte les autorités tant provinciales que nationales sur une situation dont les femmes sont victimes. Selon son président, depuis 3 jours, on retrouve des corps sans vie des femmes coupées à la machette. Maître Barwani Saïdi Vumba fait savoir que cette situation crée une psychose généralisée au sein de la communauté. On écoute le président de la société civile Antenne Salamabila, Barwani Saïdi, au micro de Florence Kizalunga.
Il y a presque 72 heures que l'on remarque les femmes deviennent une cible des bandits. La nuit du lundi au mardi, nous avons retrouvé un corps sans vie d'une fille âgée de 17 ans qui a été sauvagement abattue par les coups de machette partout dans le corps. Donc le corps était mutilé, je peux vous dire. Après ça, le lendemain, mercredi, où on a retrouvé un corps sans vie d'une autre femme, j'étais dans la rivière. Et qu'elle, on remarque, les mêmes modes opératoires, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles la première dame a été abattue, sont les mêmes que la seconde a été retrouvée. Voilà au moins ce qui étonne la communauté. Ça nous met dans une psychose, on ne comprend pas qu'est-ce qui est arrivé dans la population de Salamabila. Parce que, vu les modes opératoires, c'est semblable à ce que nous sommes en train de déplorer dans la partie orientale du pays, notamment du Nord Kivu et Ituri, là où la Defnalu est en train de tuer les gens par machette et autres armes blanches. On est en train d'alerter l'opinion nationale et même internationale. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que Salamabila devient aujourd'hui comme une cible. On peut même interpeller en particulier l'état-major général des forces armées. Parce que les phares de ces sont déployés à Salamabila. Ils doivent veiller ensemble avec les services de sécurité pour la sécurisation de la population, étant donné que c'est un droit constitutionnellement reconnu.
Nous n'avons pas encore réussi à joindre les responsables de la police de Salamabila pour avoir leur réaction à ce sujet. Autre nouvelle, à l'occasion de sa 61e année d'existence, l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, a organisé 2 journées portes ouvertes du mercredi 30 juillet au jeudi 31 juillet 2025 à Kinshasa. Le but de ces journées est de montrer au public du monde entier en général et de la RDC en particulier le rôle que joue cet institut dans le monde professionnel. Plusieurs activités ont été organisées, entre autres la visite des ateliers de l'INPP, la visite du laboratoire automatique, le froid, commercial et industriel. On écoute Patrick Kayembe Sumpa, directeur général adjoint de l'INPP, au micro de Stanislas Djoumi.
Des journées portes ouvertes organisées par l'INPP, c'est dans l'objectif premier de faire voir au grand public ce que l'INPP fait. Parce que l'INPP, par moment, est confondu à des écoles classiques. Nous, nous ne faisons pas l'enseignement classique. Nous, nous sommes dans la formation professionnelle, des métiers. Nous formons des gens qui peuvent être aptes à travailler. Vous me voyez être accompagné du directeur général de l'ONEM. C'est pour dire que on ne peut pas parler de la formation sans parler de l'emploi. Donc, c'est pour concilier l'idée et que nous nous retrouvons aujourd'hui ici, à l'INPP, d'abord pour appeler les grands publics qui viennent visiter les ateliers de l'INPP qui ouvrent ses portes. La particularité de ces journées portes ouvertes, c'est essentiellement que les grands publics puissent savoir quels sont les métiers que l'INPP forme ici.
Dans la province de la Tchopo, l'Agence nationale de promotion des investissements ANAPI sensibilise et vulgarise les réformes du climat des affaires. Les opérateurs économiques, les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, les députés et ministres provinciaux sont ciblés selon un calendrier établi à cet effet. Le coup d'envoi de ces ateliers a été donné hier au Guest House, le triangle en faveur des agents et cadres de l'administration publique. Objectif, renforcer leurs capacités en vue d'accompagner les efforts du gouvernement national et du gouvernement provincial de la Tchopo pour attirer de plus en plus les investissements au bénéfice du pays et de la population. Explication Jacques Moukonkolé.
Ces ateliers se tiennent conformément aux recommandations des assises provinciales sur le climat des affaires tenues à Lubumbashi en octobre 2024, rappelle le chef de la délégation de la NAPI, Michel Maswapi Kipundo. Le directeur en charge du climat des affaires de cette institution précise que ces assises visent à renforcer les capacités des agents et cadres de l'administration publique au cours de ces deux premiers jours avant de s'étendre à d'autres catégories socio-professionnelles selon un calendrier préétabli. Notamment les opérateurs économiques, les ministres et les députés provinciaux, les membres de la société civile, ainsi que les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. La finalité est d'installer la cellule provinciale du climat des affaires de la province de la Tchopo. Avec les cadres et agents de l'État, ils ont discuté sur la feuille des routes et la nécessité de mettre en place des stratégies en vue de la pérennisation de leur impact sur le terrain. Prochaine catégorie après l'administration publique, les ministres et les députés provinciaux. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les relations ivoiro-burkinabées au plus bas après la mort de l'influenceur Alinou Faso. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier mercredi au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Objectif, réclamer entre autres une autopsie indépendante après le décès en détention de l'influenceur Alinou Faso 6 mois après son arrestation à Abidjan. Selon le procureur ivoirien, il s'agirait d'un suicide, mais les autorités burkinabées contestent cette version évoquant un assassinat crapuleux. Cette affaire pourrait entraîner des répercussions sur les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
L'invité.
Notre invité, c'est Christian Mapendano, coordonnateur du programme Bana Okapi au sein de l'unité de partenariat Radio Okapi. Ce dernier nous parle de cette rencontre tenue à Kindu avec les leaders communautaires et les radios portant sur l'engagement communautaire pour l'amélioration de la vaccination de routine et la lutte contre la polio au Maniema. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Christian Mapendano, bonjour.
Bonjour, Madame Florence.
Pourquoi aujourd'hui Radio Okapi se lance dans cette série de sensibilisations sur l'engagement communautaire pour l'amélioration de la vaccination des routines et la lutte contre la poliomyélite au Maniema?
Disons que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Je fais partie de l'unité de partenariat au niveau de Radio Okapi. Et au sein de cette unité, nous avons un partenariat avec l'UNICEF dans le cadre de cette mobilisation communautaire, appuyer la communication dans le cadre de la sensibilisation en faveur de la vaccination, mais également la lutte contre la poliomyélite. Et c'est dans ce cadre que nous sommes dans le Maniema, afin de mobiliser la communauté, engager les radios communautaires, mais également les leaders communautaires, afin qu'ils puissent s'impliquer activement pour lutter, pour relever les défis de la vaccination dans cette province.
Comment est-ce que vous avez trouvé la situation de la vaccination dans la province du Maniema?
Il faut dire qu'avec les spécialistes de la santé, le programme élargie de vaccination, mais également la division provinciale de la santé. Les données qui ont été présentées font état, en tout cas, d'une situation très alarmante. On a plus de 48% d'enfants qui sont à l'état zéro, de zéro dose hein, de la vaccination, ce qui prouve que on a encore du travail à faire ici. Et les défis qui ont été présentés, il y a notamment le manque d'intra qui est très très fréquent ici. Il y a également les barrières socio-culturelles, mais aussi des obstacles naturels qui empêchent les gens d'aller se faire vacciner. Il y a aussi cette théorie de complot qui est souvent prêchée selon en tout cas les spécialistes de la santé sur place et qui fait qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à faire vacciner leurs enfants, ce qui est un danger pour la communauté.
Mais il a été révélé aussi que 81% des femmes ne maîtrisent pas les calendriers vaccinaux. Vous, Radio Okapi, dans votre philosophie, comment est-ce que vous comptez impliquer aussi les femmes dans cette sensibilisation?
C'est cela effectivement, comme vous le dites, le rapport de monitoring Tanachi 2023-2024 a prouvé que les femmes, et disons même les papas, si les femmes ne sont pas informées, c'est que les papas qui s'impliquent moins dans la vaccination de leurs enfants, eux, c'est carrément peut-être vers les 100%. Nous avons également plus de 17% de femmes dans le Maniema qui accouchent à domicile, ce qui fait qu'elles n'ont pas réellement l'information sur la vaccination, sur les calendriers vaccinaux. Et c'est pour cette raison, nous avons mobilisé la communauté. Nous avons vraiment demander qu'il y ait une synergie entre les radios communautaires qui sont quand même suivies au niveau de la province. Nous avons des leaders communautaires, ce sont des pasteurs, ce sont des chefs de quartier, des leaders des associations féminines et de la jeunesse qui sont respectés au sein de la communauté et qui doivent en tout cas jouer un rôle catalyseur pour que les femmes, pour que les hommes, pour que tout le monde puisse s'impliquer activement et que la vaccination soit une réalité au Maniema, que tout le monde s'implique. Nous l'avons vu avec les femmes, par exemple, du marché Tchomba, qui, à peine à avoir participé à notre atelier, elles ont commencé déjà avec des mobilisations le soir pour impliquer les autres femmes, pour les amener à adhérer à la politique de vaccination. Parce que, comme le disent les autorités, comme le disent les spécialistes de la santé, la vaccination sauve des vies. La vaccination, c'est l'unique moyen par lequel on peut sauver des populations contre des maladies qui n'ont pas jusque-là de médicaments, mais qui sont évitables grâce à la vaccination. Et parmi ces maladies, la poliomyélite.
Certains condamnent la façon que le programme n'implique pas surtout les femmes, surtout les hommes dans la campagne de sensibilisation. Cette fois-ci, comme vous avez été avec les autorités sanitaires, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça?
Disons que nous venons en appui effectivement aux autorités. Il ne nous revient pas en fait de définir leur politique, mais les recommandations ont été telles que il faudrait que tout le monde soit impliqué. Nous avons vu par exemple des radios communautaires qui ont affirmé qu'avant elles avaient des espaces pour la sensibilisation en faveur de la santé, mais parce qu'il n'y avait pas d'animateurs, ces espaces ont dû être fermés. Et notre rôle effectivement, c'est de créer, de raviver cette synergie afin qu'il y ait collaboration entre les acteurs communautaires, entre les journalistes, les médias communautaires, mais également les professionnels de la santé, parce que c'est en collaborant que nous pouvons relever les défis ensemble. Et désormais, nous sommes convaincus qu'il y aura cette collaboration entre tous ces acteurs en faveur de la santé publique dans le Maniema.
Monsieur Christian Mapendano, merci.
Merci Madame Florence.
Merci à vous Christian Mapendano et Florence Kiza Lunga. Et c'est par ici que prend fin ce journal, coordonné par Alain Irung Mouchin, j'ai mis en onde par Jean-Claude Ntiala. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis.